Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu.
C'est Dieu qui nous a appelés ici, nous lui avons dit oui. Nous avons décidé d'obéir à son appel. C'est notre endroit de provision. C'est là que se trouvait la provision pour notre guérison. Et je sais que la provision pour notre ministère, pour ce que Dieu veut que l'on fasse, notre destinée se trouve ici.
Et maintenant, voilà Andrew.
Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Je suis à peu près à la moitié de mon enseignement sur esprit, âme et corps. Il s'agit de la révélation qui a entièrement changé ma vie. Le titre peut vous déconcerter, mais je parle de ce que vous êtes devenu dans l'esprit lorsque vous êtes né de nouveau. J'ai ce livre disponible en plusieurs langues, nous avons aussi un guide d'études, un livre audio que ma femme a lu, j'ai un enseignement en version illustrée sur le même sujet. Bref, nous avons de nombreuses ressources, donc n'hésitez pas à nous appeler ou à visiter notre site internet afin de les découvrir par vous-même. Je vous encourage vraiment à non seulement écouter, mais à réécouter ces enseignements. Ils sont gratuitement mis à votre disposition sur notre chaîne YouTube ou sur notre site. Il ne s'agit pas seulement d'entendre ces vérités, mais aussi et surtout de les comprendre, de les assimiler et de les appliquer à votre propre vie. Étudiez nos enseignements en les réécoutant, en prenant des notes, en ouvrant votre Bible, en lisant les livres, et ce qui fait toute la différence. Jésus a dit que c'est la vérité que l'on connaît qui nous rend libres. On peut donc en conclure que la liberté que nous expérimentons est proportionnelle à la vérité que l'on connaît. Dieu m'a donné cette révélation il y a près de 50 ans et elle est devenue une vérité fondamentale dans ma vie. Tout ce que Dieu m'a montré dans sa parole est basé sur ce principe, selon lequel à la nouvelle naissance, c'est votre esprit qui est sauvé, et il est entièrement sauvé. Il est scellé par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun péché ou impureté qui puisse pénétrer le sceau placé autour de votre esprit né de nouveau. Et puisque Dieu est un esprit, Jean 4, 24, et que nous devons l'adorer en esprit et en vérité, cela signifie qu'en tant que chrétien, une fois que vous êtes né de nouveau, Dieu vous traite en fonction de qui vous êtes dans l'esprit, en Christ, et non en fonction de vos actions. Je ne dis pas que Dieu ignore vos actions, je ne dis pas non plus qu'il ne s'en soucie pas, car ce sont vos actions qui déterminent qui de Dieu où Satan domine dans votre vie. Romains 6, 16 dit, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc si vous décidez de vivre dans le péché, vous donnez à Satan une opportunité de vous nuire. Vous l'accueillez dans votre vie. Et les Écritures nous disent en Jean 10, 10 que le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il désire faire de vous son déjeuner et même son 4 heures. Donc si vous vivez dans le péché, vous donnez à Satan un moyen d'entrer dans votre vie. Alors arrêtez de le faire. Si vous êtes chrétien, ne vivez pas dans le péché. Vivez de manière aussi sainte que vous le pouvez. Cherchez Dieu, faites ce qui est juste. Mais il est crucial de reconnaître que la façon dont Dieu vous voit est dans l'esprit. Et dans l'esprit, vous avez été pardonné pour tous les péchés passés, présents et même les péchés que vous n'avez pas encore commis. Je sais que si c'est la première fois que vous entendez cela, certains d'entre vous pensent que c'est la chose la plus folle que vous n'ayez jamais entendue. Mais j'ai passé une semaine entière à enseigner sur ce sujet. Si vous vous procurez cet enseignement, vous aurez l'explication tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, 10 et 12. C'est tout simplement ce qu'enseignent les Écritures. Vous avez été sanctifié et conduit à la perfection pour toujours. Hébreux, chapitre 10, versets 10 et 14, et Hébreux, chapitre 12, verset 23, précisent que c'est l'Esprit des justes qui est parvenu à la perfection. Vous avez été rendu parfait dans votre esprit pour toujours, non pas jusqu'à la prochaine fois que vous péchez. Si vous avez manqué les émissions précédentes, je vous encourage à vous les procurer, elles peuvent transformer votre vie. Et cette semaine, ce dont je parle, c'est que dans votre esprit, la partie de vous qui est née de nouveau et a changé lors du salut, vous avez reçu la foi de Jésus. Vous n'avez pas seulement la foi en Jésus. Vous n'avez pas seulement votre foi humaine. Les non-croyants ont aussi ce même type de foi naturelle lorsqu'ils s'assoient par exemple sur une chaise, lorsqu'ils conduisent ou lorsqu'ils prennent l'avion. Vous n'avez pas seulement une foi qui se base sur des paramètres physiques, sur ce que vous pouvez voir, mais vous avez reçu une foi surnaturelle, le genre de foi de Dieu. Comme il est dit dans Romains chapitre 4, verset 17, Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Vous avez reçu ce même type de foi surnaturelle naturelle de Dieu le jour de votre salut. Et Romains 12, 3, la dernière phrase de ce verset, dit que Dieu a donné à chaque homme, à chaque personne née de nouveau, la mesure de la foi. Non pas une mesure de foi. Je sais bien que certaines traductions disent cela, mais les versions Martin, Osterwald ou King James parlent de la mesure de la foi. Ceci est confirmé en Galates chapitre 2, où il est dit que nous sommes justifiés par la foi de Jésus-Christ, et non seulement par la foi dans le Fils de Dieu. C'est littéralement Dieu qui vous a donné sa foi. Et puisqu'il n'y a qu'une seule mesure de foi, et Paul dit en Galates 2:20 qu'il vivait par la foi du Fils de Dieu, la mesure de foi qu'il a reçue était la foi de Jésus. Et Pierre dit en 2 Pierre chapitre 1 qu'il écrivait à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Il dit que nous avons sa foi. Alors nous avons la même foi que celle qu'avait Pierre, la même foi que Paul, la même foi que Jésus. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez un problème de connaissance. Nous ne savons pas ce qui nous appartient, et la foi est basée sur la connaissance. C'est une affirmation très importante. La foi est basée sur la connaissance. Et ce que vous ignorez est précisément ce qui est en train de vous tuer. Laissez-moi partager ce passage avec vous dans Matthieu chapitre 17. Au tout premier verset de Matthieu 17, on voit que Jésus est monté sur une haute montagne, celle que l'on appelle le mont de la Transfiguration, et qu'il y pria. Il se mit à resplendir comme le soleil, et une nuée lumineuse les couvrit, lui et ceux qui étaient avec lui. Il y avait donc Jésus, Pierre, Jacques et Jean, et une nuée les a couverts, une nuée lumineuse, d'où une voix est sortie en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. » Et les disciples ont été secoués par ce qu'ils voyaient, par ce qu'ils expérimentaient. Ils ont entendu la voix audible de Dieu et ont vu sa gloire visible. Et ils ont voulu construire trois tentes ou abris, ce que le Seigneur n'a pas voulu, et quoi qu'il en soit, lorsqu'ils sont descendus de la montagne, les neuf autres disciples étaient en bas et il y avait une foule autour d'eux qui s'approcha de Jésus. Jésus leur demanda ce qu'ils voulaient et un homme qui avait un fils, que la version Louis II appelle lunatique, et ce mot n'a plus la même signification aujourd'hui, mais on sait qu'il était en fait épileptique. C'est ainsi que nous le dirions aujourd'hui. Il avait une puissance démoniaque en lui qui provoquait des crises. Et on voit que la même scène est rapportée dans Marc au chapitre 9. Et là, le père de l'enfant explique qu'à plusieurs reprises, cet esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau. Donc on peut s'imaginer le genre de crise qu'il faisait. Donc lorsque Jésus est descendu de la montagne, le père de cet enfant est venu à lui et a dit « J'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus a répondu, « Amenez-le-moi ici. » Ils l'amenèrent donc à Jésus qui chassa le démon de cet enfant et il fut guéri. Et lorsque cela fut terminé, laissez-moi vous lire ces versets de Matthieu chapitre 17, verset 18. « Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. » Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Il y a tellement d'éléments intéressants dans ces versets. J'ai d'ailleurs enseigné plusieurs heures sur ce passage, 2 ou 3 heures à la fois, car il contient tellement de choses formidables. Mais je veux me concentrer sur le fait que ces disciples avaient la foi. Ils avaient la foi pour chasser les démons. Sinon, ils n'auraient même pas posé cette question. Par exemple, dans beaucoup de cas aujourd'hui, si vous ameniez une personne chez un pasteur classique et si elle lui demandait « Pourriez-vous chasser cet esprit de mon fils, car c'est lui qui cause ces crises ?» Certains pasteurs d'aujourd'hui ne penseraient même pas à une activité démoniaque. Ils le verraient comme quelque chose d'ordre naturel, physique. Ils chercheraient une réponse tangible au problème. Ils ne croient pas qu'il y ait des causes démoniaques. Mais la Bible est claire et je vous assure que beaucoup de choses ont été causées par des démons. La cécité, la surdité, les crises d'épilepsie et d'autres choses. Dans Luc chapitre 13, une femme était courbée à cause d'un esprit qui la rendait infirme. Jésus a chassé le démon et la femme se redressa instantanément. Donc quoi qu'il en soit, si vous ameniez une personne qui a eu des crises épileptiques, À certains pasteurs aujourd'hui, ils ne penseraient même pas à une signification spirituelle et ils enverraient donc la personne consulter des médecins plutôt que des prédicateurs. Pour commencer, ce n'est pas bien et Jésus était très mécontent que ses disciples ne puissent pas régler ce problème. Au verset 16 et 17, Jésus les a repris en disant « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Il n'a pas dit « Écoutez les gars, je suis désolé, j'étais sur le mont de la transfiguration en train d'être transfiguré devant mes disciples. J'aurais dû être avec vous, j'aurais dû vous aider, ce n'est pas votre faute, ne vous en faites pas. » Non, il leur a dit « Vous êtes une génération incrédule et perverse. » Il s'attendait à plus de la part de ses disciples. Vous savez, ce que je dis ici n'est pas populaire. Et je sais que la grande majorité des chrétiens me reprendraient et diraient « Vous n'avez pas de compassion ». Eh bien, vous devrez aussi dire que Jésus n'avait pas de compassion. Il l'a dit à ses disciples, laissez-moi vous le lire, voici ses paroles exactes, verset 17. « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus voulait que ses disciples fassent les mêmes œuvres que les siennes. Dans Jean chapitre 14, au verset 12, il dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » Jésus n'était pas content de voir l'incapacité de ses disciples à répondre aux besoins des gens. Et je vous le dis, Jésus n'est pas non plus satisfait aujourd'hui de voir l'incapacité de son corps à répondre aux besoins physiques, financiers et émotionnels des gens. Le fait que nous envoyons tout le monde chez le psychiatre, le médecin, et le banquier, au lieu de nous occuper de diffuser la vérité, comme il l'a fait, ne plaît pas au Seigneur. Bien sûr, Dieu est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour. Si vous n'agissez pas conformément à sa parole, il vous aime toujours. Mais ça ne lui plaît pas que vous ne coopériez pas avec lui. Ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Il désire que nous soyons capables de répondre aux besoins des gens. L'une des raisons pour lesquelles notre société est tellement séculière aujourd'hui, pour lesquelles l'influence que Dieu devrait avoir dans la société est grandement amoindrie, et que l'Église n'a pas répondu aux besoins physiques, financiers et émotionnels des gens. Nous les avons envoyés vers le gouvernement, nous les avons envoyés aux médecins, aux avocats, aux banquiers. Et la plupart des gens ne voient pas l'importance de Dieu et de l'Église dans la vie quotidienne. Ils pensent que ça ne concerne que le moment où nous approchons de la mort, le fait d'aller au ciel ou en enfer, donc juste avant de mourir. C'est là que la plupart se posent des questions à ce sujet. Mais dans cette vie, ils n'en voient pas l'intérêt. Ils ne savent pas que Dieu peut guérir, qu'il peut délivrer et libérer. L'Église ne l'a pas bien représenté et Dieu n'en est pas satisfait. Donc lorsque les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Le fait même qu'ils aient posé cette question montre qu'ils l'avaient déjà fait auparavant. Je ne vais pas prendre le temps d'y revenir, mais au 10e chapitre de l'Évangile de Matthieu, Jésus a appelé ses 12 disciples, ces mêmes disciples que nous voyons ici, et il leur a donné l'autorité et le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, pas seulement des petits problèmes de peau ou des rhumes, mais toute maladie, toute infirmité, et pouvoir de chasser tous les esprits impurs. Ils partirent donc et se mirent à le faire. Et lorsqu'ils revinrent, ils se réjouirent en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Donc ces personnes, ces mêmes disciples, avaient déjà chassé des démons auparavant. Et le fait même qu'ils demandent, « Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire cette fois-ci » montre qu'ils croyaient que cela pouvait être fait. À nouveau, ces gens qui ne croient pas qu'il y ait des activités démoniaques qui affectent physiquement les gens aujourd'hui, ceux qui ne croient pas que la guérison a lieu aujourd'hui, ils ne posent pas ce genre de questions. Les chrétiens qui ne croient pas que des choses miraculeuses peuvent se produire dans cette vie ne se posent pas les mêmes questions que ceux qui croient que les miracles sont d'actualité, sont pour nous aujourd'hui. Parce que ceux qui ne croient pas que cela puisse arriver, eh bien, lorsque rien ne se passe, lorsque les gens meurent, lorsque leurs finances s'effondrent, lorsque tous ces problèmes de la vie les assaillent, eh bien, en quelque sorte, ils ne sont pas déçus puisqu'ils n'exerçaient pas leur foi pour quoi que ce soit. Ils ont fini par obtenir exactement ce à quoi ils s'attendaient. Mais les gens qui s'attendent à plus, qui croient que Dieu veut nous arracher à l'actuel monde mauvais, Galates chapitre 1, verset 4. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. Ses promesses ne sont pas seulement pour le monde à venir. Pour les gens qui croient cela, je peux vous l'assurer, pour ceux qui commencent à croire, à parler et à attendre des résultats miraculeux, il y aura des moments où vous ne verrez pas les résultats souhaités. Non pas parce que Dieu ne donne pas, mais parce que nous ne comprenons pas et nous ne parvenons parfois pas à expérimenter la plénitude de ce que Dieu a pour nous, parce que nous ne comprenons pas pleinement comment utiliser sa puissance. Donc les gens qui exercent leur foi pour obtenir ces résultats miraculeux, s'ils ne les voient pas s'accomplir, ils sont surpris et ils se demandent quelle en est la raison. Pourquoi les choses se passent ainsi? Si c'est la volonté de Dieu de guérir, comment se fait-il que telle ou telle personne n'ait pas été guérie? Les gens qui posent ce genre de questions sont des gens qui croient que cela peut arriver. Les disciples n'étaient donc pas comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui qui n'exercent pas leur foi. Ils ne visent rien et font mouche à tous les coups. Non, ces disciples avaient vu des démons être chassés et à cette occasion, ils s'attendaient au même résultat. Ils ont fait ce qui avait fonctionné auparavant, mais en vain. Donc ils étaient perplexes et ont demandé à Jésus, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et remarquez la réponse de Jésus au verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité. » Ce qu'il n'a pas dit a de l'importance. Il n'a pas répondu, « Eh bien, c'est parce que dans votre cas, votre foi est trop petite. Votre foi devait être plus grande. Vous avez besoin de plus de foi. » On ne peut pas dire que c'est à cause de la taille de leur foi. Avant d'aller plus loin, laissez-moi mentionner une chose. Je sais que certains d'entre vous lisez ce verset directement dans votre Bible, et je ne suis pas contre une traduction en particulier, mais je crois qu'il y a certaines traductions qui sont plus précises que d'autres. Et la traduction NIV en anglais, à laquelle je ne suis pas opposé, je m'en sers parfois, il m'arrive de la lire, je l'utilise pour m'aider à comprendre certaines choses, mais je crois qu'elle n'est pas aussi précise que la version King James. Je pourrais m'y attarder, je pourrais passer 2 ou 3 émissions à vous expliquer pourquoi je crois que la King James est la plus précise. J'admets qu'elle peut parfois être difficile à comprendre car on y lit un vieil anglais, et je sais que beaucoup n'aiment pas ça, je peux le comprendre, et cela ne me dérange pas qu'on utilise une traduction plus moderne. Mais ce qui est sûr, c'est que certaines traductions sont beaucoup moins précises que d'autres. Par exemple, la seconde 21 dit que Jésus a répondu que c'est leur manque de foi qui était à blâmer. Mais c'est le contraire de ce qu'il a dit. Parce que si vous regardez au contexte, Jésus poursuit en disant, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Donc Jésus explique que si votre foi est aussi minuscule qu'un grain de moutarde, vous pouvez ordonner à une montagne de s'en aller et elle s'en ira. Donc en d'autres mots, le reste du verset dit, « Écoutez, vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Si votre foi était minuscule, elle serait tout de même suffisante pour déplacer une montagne. » Donc, il n'est pas logique de dire que Jésus a répondu que c'était à cause de leur manque de foi, car le reste du verset montre qu'une foi même minuscule est plus que suffisante. Donc, ce n'est pas ce qu'il a dit, il ne leur a pas répondu que c'est la taille de leur foi qui était le problème. Il leur a parlé de leur incrédulité. Vous avez déjà la foi du Fils de Dieu, vous ne manquez pas de foi. Il se peut que vous n'utilisiez qu'un peu de votre foi, je le reconnais. Dans Matthieu chapitre 8, Jésus rencontre un centurion. Il lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ce à quoi Jésus a répondu que même en Israël, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi. Parmi tous les Juifs, il n'y avait pas une seule personne qui avait une foi aussi grande que celle du centurion. Donc je crois que l'on peut manifester une grande foi, on peut utiliser une grande foi, mais dans l'enseignement que j'ai apporté les 3 premiers jours de cette semaine, je vous encourage à les regarder à nouveau, j'explique que nous avons tous reçu la mesure de la foi. Nous avons reçu une foi du même prix que celle de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Nous avons la même que Paul qui a dit dans Galates 2, 20, qu'il vivait par la foi du Fils de Dieu, et non par la foi dans le Fils de Dieu, par la foi du Fils de Dieu. Donc vous avez déjà la foi, vous n'avez pas un problème de foi, mais un problème d'incrédulité. Et retournons dans Matthieu, chapitre 17, au verset 21, où il est écrit, « Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ce verset est entrecroché dans la version Louis II, et d'autres versions l'omettent complètement. Je le répète, je ne suis pas contre telle ou telle version. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devriez lire qu'une seule version de la Bible et que si vous lisez une version qui parle du manque de foi, c'est démoniaque. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui parlent comme cela. Mais je crois que certaines versions sont plus fidèles aux textes originaux que d'autres. Et concernant la NIV en anglais, le fait de ne même pas insérer le verset 21 n'est vraiment pas une bonne chose. Et je pourrais vous montrer un certain nombre d'exemples dans la Bible NIV où des versets n'apparaissent même pas. Ils ont tout simplement retiré des parties des Écritures parce qu'elles ne reflétaient pas les préjugés qu'ils avaient au moment de la traduction. Je sais que je bouscule certaines personnes en disant cela, mais je dis simplement que vous devez comparer les versions de la Bible. À nouveau, je ne suis pas contre une version en particulier, je possède une NIV que j'utilise pour faire des comparaisons. Mais me concernant, l'autorité finale, c'est la King James, et à cet endroit précis, les disciples ont demandé « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. Il ne leur a pas dit que la raison était qu'ils n'avaient pas assez de foi. Il n'a pas dit, c'est à cause de votre petite foi, mais c'est à cause de votre incrédulité. Vous savez, j'ai utilisé cet exemple de nombreuses fois, mais si j'avais un poids devant moi, vous pourriez faire en sorte qu'une force soit exercée en y accrochant un cheval, une voiture, un engin quelconque, peu importe. Vous pourriez accrocher quelque chose qui aurait assez de puissance pour déplacer ce poids. Et s'il n'y avait pas d'opposition, le poids se déplacerait facilement. Mais si une force égale était exercée sur le poids, dans la direction opposée, s'il y avait deux voitures ou chevaux en train de tirer ce poids en même temps, mais dans la direction opposée, l'effet serait nul. Le poids ne bougerait pas, même si une force énorme était exercée, car les forces se contrebalancent, elles s'annulent l'une l'autre. Et c'est exactement ce que le Seigneur explique concernant l'incrédulité. Vous avez la foi pour être sauvé, pour être né de nouveau. Il vous a fallu avoir la foi du Fils de Dieu. Nous avons la foi, mais le problème est que nous avons aussi une certaine dose d'incrédulité qui annule, qui contrebalance notre foi. Si vous êtes né de nouveau, selon les versets que j'ai lus dans l'épisode d'hier, Éphésiens chapitre 1, verset 19, vous avez en vous l'infinie grandeur de sa puissance, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Elle réside à l'intérieur de vous. Mais selon Philémon chapitre 1, verset 6, cette puissance ne commence à fonctionner que lorsque vous reconnaissez que vous la possédez. Si vous ne croyez pas que vous avez la foi, si vous pensez que vous n'avez qu'un tout petit peu de foi, une foi insuffisante, qui n'est pas à la hauteur du défi que vous devez relever, si c'est ce que vous croyez, alors vous n'avez pas reconnu toute bonne chose qui est en vous. La communication de votre foi ne deviendra pas efficace. Vous ne verrez pas les résultats que vous souhaitez obtenir, et c'est là qu'est le problème. La plupart des gens, la plupart des chrétiens, la plupart d'entre vous qui regardez cette émission aujourd'hui, c'est un tout nouveau sillon dans votre cerveau. Vous n'avez jamais pensé avoir la même qualité et la même quantité de foi qu'avait Jésus. Vous ne doutez probablement pas que la foi fonctionne. Vous doutez seulement d'en avoir assez ou que votre foi soit assez forte. La vérité, c'est qu'une chose s'est passée à la nouvelle naissance. Galates 5, 22 dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Vous avez la foi. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez un problème de connaissance. Vous ne savez pas ce que vous avez. Vous n'avez pas reconnu toute bonne chose qui est en vous. Et pourquoi donc? Parce que vous regardez à l'extérieur et vous pensez, si j'avais cette foi, je la sentirais, j'aurais la chair de poule, je pourrais sentir un feu dans mes mains. Vous pensez que vos émotions seraient différentes et que vous le sauriez. Mais non, c'est ce que j'enseignerai la semaine prochaine, que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous ne pouvez pas accéder au monde spirituel et qui vous êtes en Christ à travers votre chair, à travers le monde physique, charnel, émotionnel. Vous devez vous en tenir à ce que dit la parole de Dieu. Et la plupart des gens se heurtent et se limitent à ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, alors qu'on ne peut pas discerner les choses spirituelles grâce à ce monde physique. Même si vous ne croyez pas la voir, vous avez la foi du Fils de Dieu.